Les séminaires du Collège de France.
Dans la deuxième partie, vous aurez un séminaire de Paola Di Matteo, qui est directrice de recherche à l'Observatoire de Paris, et qui va nous dire tout ce qu'elle fait en ce moment sur les amas de galaxies.
Donc, bonsoir à tous. Donc, on continue ce voyage parmi les amas stellaires en parlant un peu plus des amas globulaires. Et je voudrais, dans la suite, détailler certaines des découvertes récentes autour des amas globulaires et aussi vous montrer qu'en fait on peut utiliser les amas globulaires, le système d'amas globulaires, pour apprendre quelque chose sur notre galaxie. Alors je reviens sur ce que Françoise a déjà expliqué avant, c'est-à-dire qu'un amas globulaire est un système stellaire constitué d'un ensemble d'étoiles qui sont liées entre elles par la force de la gravité. Et on voit déjà dans cette image que les amas ont la tendance à avoir une très forte densité d'étoiles au centre et une densité qui décroît vers les régions externes. Ce qui est représenté ici par un profil de King, comme Françoise disait avant, c'est-à-dire on voit la densité des amas, des étoiles de l'amas en fonction de la distance au centre de l'amas, et on voit une densité très haute dans les régions centrales et après une décroissance vers les régions externes. Alors, le fait qu'en première approximation, les amas montrent une forme sphérique, c'est ce qui motive en fait leur nom, donc les amas globulaires, de globulus en latin, c'est-à-dire des petites sphères. Alors, si on regarde les amas globulaires dans la galaxie, on a dit qu'ils contiennent des centaines de milliers, voire des millions d'étoiles, et ils ont en moyenne une masse stellaire qui est d'environ 300 000 masses solaires. Donc, si on regarde tous les amas et on évalue leur masse stellaire et on en fait la moyenne, on trouve à peu près cette valeur. Mais, en fait, pas tous les amas globulaires ont la même masse, et en fait, on trouve aussi dans la Voie lactée des amas comme Palomar 5, qui était déjà cité, dont la masse stellaire est très faible, environ 10 000 masses solaires, ou par contre on en trouve aussi d'autres dans la Voie lactée qui sont à l'autre extrême et qui sont très massifs, comme par exemple l'amas Omega Centauri, c'est-à-dire NGC 5139, dont la masse stellaire est environ 3 millions de masses solaires. Et alors, si vous voulez connaître plus sur les paramètres fondamentaux des amas globulaires galactiques, il y a ces deux catalogues qui sont disponibles en ligne. Vous avez tous les masses, les tailles typiques, les distances au sein galactique. Alors, un petit rappel, donc, on connaît environ 170 amas globulaires aujourd'hui dans la Voie lactée. En fait, on continue à en découvrir, comme on verra dans un instant. Et la plupart de ces amas sont aujourd'hui dans l'halo stellaire de la galaxie, donc dans cette région très peu dense qui entoure le disque. Mais on en trouve aussi dans le bulbe, donc dans les régions les plus denses de la Voie lactée, et aussi dans la partie plus épaisse du disque. Donc quand on regarde de façon projetée, en fait on a pas mal d'amas qui sont situés dans ces régions centrales de Barbulb. Alors je disais qu'il y en a environ 170 qui sont connus aujourd'hui, et en fait une des choses magnifiques de ces dernières années c'est que tous les résultats qui la mission Gaïa, la mission astrométrique de l'ESA est en train de nous livrer, et entre autres en fait pour tous ces amas maintenant on connaît leur position dans la galaxie et leur vitesse, et donc on peut reconstruire les orbites, et on verra que ça c'est quelque chose de fondamental pour essayer d'apprendre plus sur la Voie lactée. Donc ici vous avez le ciel comme il est vu par Gaïa, et tous les points bleus et les noms correspondent aux amas globulaires. Par contre, les choses que vous avez en rouge sont certaines des galaxies naines satellites de la Voie lactée. Alors, je disais qu'on en connaît 170, mais probablement ce census n'est pas complet. Et une des raisons pour lesquelles on pense que le census n'est pas complet, c'est qu'on peut prendre en fait les amas globulaires qu'on a aujourd'hui, et on peut en fait le reporter dans un plan XY ou un plan XZ, où XY en fait sont les positions des amas dans le plan galactique, donc ici la X correspond au centre de la galaxie, et en XZ, vous voyez une projection de tranches de notre galaxie. Dans ces deux cartes, en fait, le Soleil est à droite. Donc, ce que vous voyez, les rouges et les gris correspondent tous les deux à des points qui tracent les amas globulaires. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a plus d'amas globulaires dans la partie proche du disque à nous que de l'autre côté. Ici, l'ovale rouge correspond à la barre, hein. C'est l'orientation de la barre. Donc, on voit qu'il y a moins d'amas de l'autre côté du disque par rapport au sein galactique que de notre côté. Et ça se voit encore mieux quand on regarde en Z, X, où Z est l'auteur au plan galactique. Vous voyez qu'il y a vraiment un manque d'amas dans les régions de l'autre côté du sein galactique. Et on pense en fait que ce qui nous empêche de découvrir ces amas, il n'y a pas de raison dynamique pour laquelle on doit avoir plus d'amas d'un côté que de l'autre, c'est juste qu'on a du mal à les découvrir. Et une des raisons, c'est qu'en fait on a plein d'extensions le long du disque qui nous empêchent en fait de voir surtout ce qui se passe de l'autre côté. Mais en fait, on commence à en découvrir donc, ces dernières années, surtout grâce à des surveys dans l'infrarouge, on a découvert d'autres amas globulaires, surtout en fait dans les régions du bulbe, vraiment proches du disque galactique. Donc certains ont été découverts par Felipe Grane et collaborateurs, et d'autres par exemple par Garro et Tal dans le cadre de la collaboration VVX. Et un de ces amas, nouveau amas découvert, c'est montré ici. Ça s'appelle Garro 02, du nom de la personne qui l'a découvert. Et donc, vous le voyez ici, il s'agit d'un amas qui est vraiment dans le disque galactique, proche en fait de la fin de la barre. La Voie lactée n'est pas l'unique galaxie qui contient des amas. On a déjà mentionné le fait la galaxie d'Andromède qui contient potentiellement plus de 300 amas globulaires. Et après, on peut aller vers des galaxies encore plus massives comme M87, qui est la galaxie au centre de l'amas de la Vierge. Et là, les estimations sont encore plus remarquables. On pense qu'il y a environ 10 000 amas globulaires dans cette galaxie. D'accord, alors, première découverte sur les amas globulaires. Alors, je veux faire un pas en arrière parce que ça me permet de vous montrer en fait que pendant le siècle dernier, pendant les derniers siècles, en fait, on a vraiment commencé à découvrir ces systèmes et un peu moins d'un siècle, en enrichir vraiment la statistique qu'on avait. Alors, l'étude des amas globulaires comme système constitué d'étoiles commence en fait essentiellement au XVIIIe siècle, et avec d'une part les observations de Charles Messier et de l'autre celles de William Herschel et sa sœur Caroline. Et c'est à Herschel en fait qu'on doit le terme amas globulaire, globular cluster en anglais, pour décrire ces systèmes. Alors, Monsieur commence à faire un catalogue d'amas et en fait de nébuleuses, hein, comme il était considéré à l'époque. Et c'est d'après le catalogue de Monsieur, donc au XVIIIe siècle, et celui de Dreyer qui vient un siècle après et qui se base en fait, c'est une nouvelle version du catalogue d'Herschel, que en fait on nomme encore les amas aujourd'hui. Donc, pour beaucoup d'amas, vous trouvez une double nomenclature, par exemple M4, que je vous montrais au départ, s'appelle aussi NGC 6121, M10 6254, M22, NGC 6656, etc. Donc souvent, vous avez la double nomenclature qui en fait revient aux études qui sont faites entre le 18e et le 19e siècle sur ces systèmes. Il y a d'autres amas qui sont intéressants, et c'est le groupe d'amas globulaires qu'on appelle Palomar. On a déjà un peu parlé de Palomar 5. Donc, ils sont une quinzaine d'amas, donc on les nomme de Palomar 1 à Palomar 15, et sont des amas qui sont découverts beaucoup plus tardivement, donc dans les années 50 du siècle dernier, grâce aux observations qui sont conduites en Californie à l'observatoire Palomar. Et pourquoi ces amas sont découverts si tard? Parce qu'en fait, ce sont des amas très peu lumineux en général, soit parce qu'ils sont fortement obscurcis, soit parce qu'ils sont lointains de nous, du Soleil, soit parce qu'ils ont très peu de masse, ils contiennent très peu d'étoiles. Mais donc, il a fallu du temps pour arriver à découvrir cet ensemble d'une quinzaine d'amas. Alors, c'est aussi au début du siècle dernier qu'on commence donc à... on arrive au début de 1900 à avoir une statistique à connaître environ 70 amas globulaires. Et en fait, c'est au début du siècle dernier que Arlo Shapley commence pour la première fois, utilise ce système d'une 70 environ amas globulaires qui était connu pour montrer qu'on pouvait utiliser ces amas comme système, donc pas un à la fois, mais vraiment prendre tout ensemble ces dizaines d'amas globulaires pour comprendre quelque chose sur la galaxie et sur la place du Soleil dans la galaxie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Essentiellement, il utilise des étoiles variables dans ses amas globulaires, étoiles qui sont des bons indicateurs de distance, pour en fait placer tous ces amas par rapport à la distance au Soleil. Et donc, les placer, par exemple, ici, dans cette figure qui montre la distance projetée au plan galactique en fonction de la distance verticale. Et donc, c'est le Soleil dans cette image par là. Donc, la chose dont il s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a une forte densité de ces amas vers des régions dans la direction de Sagittaire. Et en fait, il place cette grande densité d'amas dans ces régions à environ 20 kiloparsecs du système solaire. Donc, c'est la première fois, en fait, qu'on utilise ces amas globulaires pour définir le centre de la galaxie et positionner le Soleil par rapport à ce centre. Dans la réalité, on sait que le Soleil n'est pas à 20 kiloparsecs du sang galactique, mais plutôt à 8 kiloparsecs, mais ça donne pour la première fois cette idée qu'on peut utiliser tout ce système d'amas globulaires pour apprendre quelque chose sur la galaxie. Alors, pour longtemps, après leur découverte, les amas globulaires ont été considérés comme des systèmes vieux, pauvres en métaux, et simple. C'est ça qui, pour longtemps, même quand j'étudiais, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, les amas globulaires étaient des systèmes très simples. C'est-à-dire, chaque amas est constitué d'étoiles qui ont toutes le même âge et la même métallicité, ils n'ont pas de rotation et sont asymétriques sphériques. Alors, pourquoi les amas, on a pour longtemps pensé, et on le pense encore pour un certain nombre d'entre eux, que les amas ont tous le même âge? Mais parce que si on reporte sur un diagramme, ici vous avez l'exemple d'un des amas globulaires de la galaxie, 47 Toucan, c'est-à-dire NGC 104, donc si on regarde son diagramme, si on reporte les étoiles de NGC 104, sur un diagramme couleur magnitude, ça c'est un diagramme couleur magnitude qui nous vient des observations Gaïa, on voit en fait que toutes les étoiles de l'amas se répartissent selon une traînée, disons, qui est très bien précise, très caractéristique, qui en fait peut être reproduite par une isochrone, c'est-à-dire par une courbe qui définit comment dans ce diagramme des étoiles de même âge se distribuent. Vous voyez que le spread la dispersion autour de cette isochrone est très petite, ce qui nous indique en fait que toutes les étoiles de cet amas doivent avoir essentiellement même âge et même métallicité. Alors on peut faire ce travail pour tous les amas globulaires, et donc ce qu'on reporte ici, c'est l'âge, la distribution en âge de tous les amas globulaires. C'est pris par un travail de la fin des années 90, ce qui vous montre qu'en général, il s'agit de systèmes vieux avec une valeur moyenne de l'âge d'environ 11,5 milliards d'années. Alors, on peut aussi estimer la métallicité de ces systèmes par photométrie ou spectroscopie. Et donc, ce qu'on reporte ici, c'est en fait la distribution, cette fois-ci, en métaux, c'est-à-dire en effet sur H, des amas. Et ce qu'on voit, c'est qu'en général, tous les amas ont des métallicités inférieures à la métallicité du Soleil, qui est ici à zéro. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que leur distribution montre deux pics. Donc, c'est ce qu'on dit, une distribution bimodale. Et donc, on a des amas dont la métallicité pique autour de moins 1,5 et d'autres, notre deuxième pic autour de moins 0,5. C'est pour ça qu'on parle d'amas riches en métaux et amas globulaires pauvres en métaux. Il s'agit toujours de systèmes avec des métallicités inférieures à celles du Soleil, mais on voit quand même qu'il y a deux groupes différents parmi la population d'amas globulaires. Alors, cependant, on commence dans les dernières, disons, 20 ans environ, à comprendre que cette représentation de système simple peut-être qu'elle n'est pas suffisante pour représenter les amas globulaires. Donc, on commence par la rotation. On avait dit les amas globulaires en général ne tournent, les étoiles des amas globulaires ne tournent pas toutes avec un mouvement cohérent. Et en fait, ce qu'on a découvert dans les dernières, disons, 10 ans de façon très remarquable, c'est que la moitié, au moins la moitié des amas globulaires, montre de la rotation, c'est-à-dire il y a un mouvement d'ensemble des étoiles, et vous le voyez par exemple très bien ici dans ce travail de Kamman et Tal, fait en mesurant la vitesse spectroscopique, donc par effet Doppler, des étoiles dans des dizaines d'amas globulaires de la galaxie. Si vous regardez simplement les cartes qui sont montrées dans les colonnes de gauche, ce que vous voyez du rouge et du bleu, et bien ça veut dire qu'il y a cette partie de l'amas dont les étoiles ont un mouvement qui les porte à s'éloigner de nous, du Soleil, alors que dans cette autre moitié de l'amas, la couleur est bleue, c'est-à-dire il y a les étoiles qui se rapprochent de nous, comme pour des galaxies à disque en fait, on voit de la rotation. Et ça, c'était confirmé aussi en utilisant les mouvements POP qui viennent de Gaïa, par exemple, dans ce travail de Paolo Bianchini et collaborateurs. Donc, plus de la moitié tourne. On ne sait pas encore pourquoi ces amas tournent. Est-ce que c'est de la rotation qui est primordiale, c'est-à-dire les amas se sont formés déjà comme des systèmes qui tournaient, ou est-ce qu'ils ont acquéri leur rotation, donc du moment angulaire, au cours de leurs 10-13 milliards d'années d'évolution? Ça, c'est une question encore ouverte. L'autre chose intéressante qu'on a découvert au fil des années, vous voyez, la plupart de ces découvertes datent en fait de moins de 15 ans, c'est qu'il y a des amas, au moins une dizaine, qui montrent des dispersions en métallicité, c'est-à-dire à la place d'avoir des étoiles à l'intérieur d'un amas toutes de même âge, on voit qu'il y a une dispersion significative en métallicité, ce qu'on appelle spread en anglais. Et donc ici, vous avez une liste d'amas pour lesquels cette dispersion est vraiment grande, remarquable. Et on en verra dans un instant un de celles-là. Encore une fois, on ne sait pas, le fait qu'il y a des amas avec cette dispersion si importante, probablement nous révèle quelque chose sur la formation et l'évolution de ces systèmes. Mais la chose est encore loin d'être complètement comprise. Donc, parmi les amas qui ont un spread de métallicité très élevé, je veux juste vous montrer celui-là, c'est-à-dire Omega-Sen, vous vous rappelez, l'amas le plus massif qu'on a dans notre galaxie, 3 millions de masses solaires. Alors ici, ce que vous voyez dans la figure du haut, c'est en fait la distribution en effet sur H de toutes les étoiles qui ont été observées dans Omega-Sen. Et vous voyez qu'il y a des étoiles qui ont une métallicité moins 2, c'est-à-dire 100 fois plus petite que la métallicité du Soleil, jusqu'à des étoiles qui ont une métallicité moins 0,5. C'est-à-dire à la place de voir vraiment qu'une valeur de métallicité, on voit un intervalle à métallicité très large. Et on peut juste comparer l'intervalle de métallicité des étoiles dans Omega-Sen avec tout l'intervalle à métallicité de tous les amas globulaires de la galaxie. Et vous voyez, c'est impressionnant Omega-Sen, c'est-à-dire il prend presque tout l'intervalle observé des métallicités des amas globulaires. Alors, on a parlé de la métallicité, on a dit qu'il y a une dispersion au moins dans une partie de ces amas, on a dit qu'il y a aussi de la rotation, et une autre chose qu'on a appris, c'est que les amas la morphologie des amas est plus complexe que prévu. Alors, on a dit essentiellement les amas peuvent être décrits comme des systèmes à symétrie sphérique. Ça, c'est vrai jusqu'à l'intérieur de leur rayon de marée, c'est-à-dire le rayon qui définit quelque part la taille maximale du système. Mais déjà au début des années 2000, on s'aperçoit en fait qu'à l'extérieur de ce rayon de marée, certains amas montrent des distributions asymétriques d'étoiles. Ce qu'on a, Françoise a anticipé, c'est ce qu'on appelle les queues de marée, les courants stellaires. Et pour longtemps, le prototype d'amas globulaires avec ces magnifiques queues de marée, donc traînées de marée, courants stellaires, qui départ du centre de l'amas, donc de la partie gravitationnellement liée de l'amas, a été constitué par Palomar 5. Donc ces queues de marée ont été découvertes en 2003, et ce qui a été discuté déjà dans ce travail, c'est qu'en fait, dans les queues de marée de Palomar 5, qui s'étalent pour des dizaines de kiloparsecs de l'amas, on a plus de masse, on a plus d'étoiles que dans l'amas lui-même. Donc ça veut dire que Palomar 5 est vraiment un amas dans les phases finales de sa disruption dans le champ de marée de la galaxie. Et la plupart des étoiles qui constituaient Palomar 5 ne sont plus dans l'amas même, mais sont perdues dans l'halo de la galaxie. Alors, on les a vus, hein, le phénomène de marée qui forme les queues de marée de Palomar 5 est compris. Chaque fois que vous avez un système qui a une taille finie, qui est sujet à la force gravitationnelle dans notre système, donc imaginez un amas globulaire qui orbite autour de la galaxie, mais il y aura une déformation de cet amas due au fait que les forces gravitationnelles de ce côté de l'amas sont plus fortes que de l'autre côté, et donc dans le référentiel de l'amas, ça donne une déformation. Et au fur et à mesure que le temps passe, des étoiles qui sont dans l'amas, à cause de cet effet de marée, peuvent s'échapper à l'amas lui-même et se redistribuer le long des queues de marée. Alors ici, je vous montre juste une petite vidéo parce que c'est ce phénomène, s'il marche, sinon on va le passer. Ah non, pour quelque raison ça ne marche pas. Ben je suis désolée. Ah oui, voilà, c'est moi qui ne le voyais pas. Donc ce que vous voyez, c'est une simulation de la formation de ces queues de marée. Ce que vous voyez là, c'est un amas globulaire qui est en train d'orbiter autour de la galaxie. Et ensuite, on laisse évoluer les particules qui constituent cet amas globulaire et on voit au cours du temps la formation de ces queues de marée, le courant ou la queue d'avant et celle d'arrière qui précèdent et suivent l'amas dans son orbite autour de la galaxie. Alors, pour longtemps, on a connu seulement Palomar 5, c'est-à-dire l'un des rares exemples d'amas avec des queues de marée très longue, était constituée par Palomar 5, mais en fait avec Gaïa, voici ce qu'on a découvert. Tout ce que vous voyez ici sont en fait des queues de marée ou des courants stellaires associés qu'on a découvert dans l'halo de notre galaxie grâce en fait au fait qu'avec Gaïa on peut utiliser pas seulement les informations sur le diagramme couleur magnitude qui nous aide à séparer les amas d'un courant, les étoiles d'un courant stellaire par rapport aux étoiles de champ, mais on peut aussi utiliser l'information sur le mouvement. Donc on cherche des étoiles qui ont un mouvement cohérent. Et donc on a trouvé tous ces systèmes, par exemple ici les queues de marée associées à Omega Centauri, ici un courant stellaire dont on ne connaît pas le progéniteur, un phlegeton, qui fait des dizaines de degrés dans le ciel. Ici, vous avez un autre courant stellaire qui, en fait, était déjà connu, GD1, pour lequel encore on ne connaît pas le progéniteur. Et après, vous avez des courants stellaires associés à des amas qui sont encore, disons, visibles dans la galaxie, comme 3201, 1851, 1261, etc. Alors ça c'est ce qu'on a découvert, mais en fait on peut utiliser les simulations numériques pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir. Alors vous pouvez faire des simulations un peu comme celle dont je vous montrais la vidéo. Vous prenez tous les amas globulaires qu'on connaît aujourd'hui dans la galaxie, 170. Vous utilisez les positions et les vitesses qui viennent de Gaïa, que Gaïa nous donne, et vous laissez évoluer ces amas globulaires dans le potentiel de la galaxie. Et ça, c'est ce que vous attendez de trouver. Donc, en fait, notre galaxie, ici montrée une carte à longitude et latitude, devrait être pleine de courants stellaires. Il y en a un certain nombre aussi proches du plan, là où c'est difficile encore de les détecter, associés aux amas globulaires qui sont encore aujourd'hui dans la Voie lactée, qui ne se sont pas encore détruits et qui ici sont représentés par les points rouges. Alors, on a vu certains des phénomènes, on a vu que ce sont des systèmes complexes, on a vu certains des phénomènes qui intéressent les amas globulaires et qui contribuent en fait à que ces amas globulaires donnent au cours du temps de la masse au halo au disque de la Voie lactée. Mais essayons de comprendre maintenant où se sont formés les amas globulaires. Est-ce que tous les amas globulaires qu'on voit aujourd'hui dans la galaxie se sont formés dans la galaxie même, dans la Voie lactée même ? Alors, si on regarde notre voisine, la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus massive du groupe local, d'une masse, disons, similaire à celle de la Voie lactée, on voit dans la carte de gauche, en fait, ici, au centre, vous avez le disque d'Andromède, et on voit que l'halo d'Andromède est caractérisé par tout un tas de structures, des arcs, un arc géant, des grands courants qui s'étalent sur plusieurs kilopascals, dizaines de kiloparsecs du halo d'Andromède. Et toutes ces structures, en fait, sont signes du fait que Andromède est en train ou est accrété dans le passé récent d'autres galaxies. Ces galaxies ont laissé leur traînée d'étoiles et donc on voit encore toutes ces distorsions autour du halo d'Andromède. Mais la découverte intéressante, c'était que maintenant, si on va regarder les amas globulaires d'Andromède et on les place sur cette même carte, on voit sont les points colorés que vous voyez ici, que tout un tas de ces amas, en fait, se redistribuent. Là, on voit aussi ces courants d'étoiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une indication du fait qu'à chaque fois qu'une galaxie accrète une autre galaxie, ben, elle accrète aussi le système d'amas globulaire de cette dernière. C'est-à-dire, M31, le nombre d'amas globulaires est en train d'augmenter, aussi parce que M31 a phagocyté dans son passé récent d'autres galaxies qui ont amené leur cortège d'amas globulaires. Ça, c'est valide pour M31, mais c'est valide aussi pour la Voie lactée. On sait qu'il y a une galaxie, que c'est la galaxie naine sphéroïdale du Sagittaire, qui a été découverte, j'ai mis Ibata 2004, mais c'est 94, ça fait 30 ans, qui a été découverte par Rodrigo Ibata et collaborateurs en 94, et c'est une galaxie dont le cœur, donc la partie centrale de cette galaxie, se situe ici, donc juste au-dessous du bulbe, mais en fait de l'autre côté du disque galactique par rapport à nous. Le cœur de Sagittaire est actuellement au-dessous du plan galactique, comme je disais. Mais en fait, ce qu'on a observé, c'est que de Sagittaire, il départ tout un courant stellaire qui, en fait, fait plusieurs tours autour de la galaxie. Donc ici, vous avez une représentation de ce courant qu'on appelle le courant de Sagittaire. Ici, vous avez le disque galactique, le Soleil est par là. Le cœur de Sagittaire est par là, et bien Sagittaire, au cours de ses orbites autour de la Voie lactée, a perdu toutes ses étoiles qui se sont redistribuées le long de ce courant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas que des étoiles dans le courant de Sagittaire, mais ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, il y a des amas globulaires qui sont classés comme des amas globulaires de la galaxie. Donc, si vous allez les chercher dans le catalogue des RIS, etc., ils sont listés parmi les amas globulaires de notre galaxie. Mais en fait, on a compris que ce sont des amas qui sont soit associés au cœur de la galaxie de Sagittaire, donc comme M54. Donc, ce que vous voyez dans cette carte, en longitude et latitude, vous avez la distribution des étoiles du noyau de Sagittaire, des régions centrales de Sagittaire. Vous avez un amas M54, c'est-à-dire NGC 6715, qui est vraiment au centre de la galaxie Sagittaire. Et ensuite, vous en avez d'autres comme ARP 2, Terzan 8, Terzan 7, qui sont encore dans les régions centrales de Sagittaire aujourd'hui. Donc, on les classe comme amas globulaires galactiques parce que Sagittaire est dans le potentiel gravitationnel de la Voie lactée, mais en fait, clairement, ce sont des amas qui sont arrivés dans la Voie lactée avec Sagittaire. Et en fait, on pense que ce ne sont pas les uniques quatre amas. Donc ici, vous avez une figure qui vous montre une coordonnée angulaire, c'est-à-dire la distance angulaire à Sagittaire, le long du courant de Sagittaire. Ici, vous avez la distance au Soleil. C'est une carte compliquée, mais ce que je voudrais juste vous passer comme message, en jaune, vous avez les étoiles observées comme des étoiles qui sont dans le courant de Sagittaire. Et par contre, les petits noms correspondent à des amas globulaires qui sont cohérents avec ce courant de Sagittaire, soit pour leur distribution dans le ciel, soit pour leur mouvement. Donc on pense en fait qu'il y a tous ces amas, au moins, Palomar 12, Palomar 2, Whiting 1, 6284, etc., qui sont soit dans le cœur de Sagittaire, soit le long le courant de Sagittaire. Donc ce sont des amas qui ont été amenés avec la galaxie de Sagittaire et pendant l'orbite de la galaxie de Sagittaire autour de la Voie lactée, Sagittaire a perdu de la masse, a perdu des étoiles et a perdu aussi une partie des amas globulaires. Donc on a évidence en fait que ce phénomène d'accrétion, que pas toutes les amas se forment dans la galaxie où on les voit aujourd'hui, une partie sont arrivées. Une partie sont arrivées, alors dans le cas de Sagittaire, c'est relativement simple. Ça n'a pas été complètement évident, mais Sagittaire est une galaxie qui est encore en train d'être accrétée. Donc on voit le noyau de Sagittaire, on voit les courants stellaires. Mais comment on fait à comprendre s'il y a d'autres amas qui sont aujourd'hui de la Voie lactée, mais qui sont venus dans un passé plus ancien, apportés par d'autres galaxies? Alors, première chose que je veux dire, pourquoi on les cherche en fait, ces amas? Une des raisons de les chercher, c'est ici. C'est un travail de Lehmann et Tal qui date maintenant d'une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Lehmann et Tal? Ils avaient un ensemble, ils avaient une estimation des âges et des métallicités pour environ 70 amas globulaires. Donc, ils ont reporté dans cette figure l'âge de tous ces amas globulaires en fonction de la métallicité. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, les amas globulaires ne se redistribuent pas n'importe comment dans ce plan. On voit essentiellement une relation presque plate jusqu'à des métallicités de moins 1,5. Et au-dessus de cette métallicité, donc les amas plus riches que moins 1,5 se redistribuent selon deux différentes séquences. Donc ça veut dire qu'à une métallicité donnée, vous avez des amas qui sont plus jeunes, 11 milliards d'années, alors qu'il y en a d'autres à même métallicité qui sont plus âgés. Alors comment on interprète cela? On interprète cela comme le fait que, comme une évidence du fait que les amas de la Voie lactée sont en partie, comme on dit, in situ, c'est-à-dire sont des amas qui se sont formés dans la Voie lactée même, il y a très longtemps. Et par contre, cette séquence-là s'est reconstituée d'amas accrétés par la Voie lactée au cours du temps. Et donc ici, j'ai juste mis en évidence Palomar 12 et Terzan 7, qui sont deux des amas globulaires associés à Sagittaire, et vous voyez bien qu'ils sont particulièrement jeunes pour leur métallicité hein, par rapport aux autres amas. Donc maintenant, il reste à comprendre d'où ces amas-là viennent. Après, c'est encore plus difficile ici parce que les deux séquences se rejoignent et donc c'est difficile pour l'instant de dire qui est qui. Mais ces amas-là, de combien de galaxies sont venues dans le passé? Est-ce qu'on peut reconstituer, répondre à cette question? Et donc, toute une partie de la recherche galactique actuelle essaye en fait de reconstituer à partir des caractéristiques des étoiles mais aussi des amas globulaires l'histoire d'accrétion de la Voie lactée. Combien de galaxies ont été accrétées? Quelle masse? À quel moment? Alors, dans le cas de Sagittaire, vous vous souvenez, on a dit que la galaxie est encore en train d'être accrétée. On voit le cœur de Sagittaire et on voit le traînée de marées, d'étoiles perdues par Sagittaire. Alors, le problème se complique si on essaye de remonter à des accrétions qui se sont produites il y a plusieurs milliards d'années, 5, 7, 10 milliards d'années, 13 milliards d'années. Pourquoi? Mais c'est montré dans cette animation. Ce que vous voyez ici, chaque système avec une couleur différente correspond à une galaxie simulée accrétée par une galaxie type Voie lactée. Donc ce que vous voyez sont juste les étoiles du satellite, vous ne voyez pas les étoiles de champ de la Voie lactée. Donc vous voyez ces systèmes accrétés, vous voyez la formation de ces courants stellaires, de ces traînées de marée, mais vous voyez aussi qu'après un certain temps, les étoiles de chacun de ces satellites se mélangent. Donc si vous n'aviez pas les couleurs, ça serait difficile de dire d'où les différentes étoiles de quelle galaxie progénitrice viennent. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser l'information spatiale, c'est-à-dire vraiment essayer de chercher des régions de surdensité dans le ciel, comme dans le cas de Sagittaire, pour arriver à constituer, arriver à remonter aux accrétions qui se sont produites il y a plusieurs milliards d'années, parce qu'en fait, après quelques milliards d'années, les temps dynamiques, c'est-à-dire le temps qu'il faut, par exemple, pour faire un tour autour du sang galactique, pour une étoile qui est à la distance du Soleil, est d'environ 250 millions d'années. Donc, vous laissez passer une dizaine de ces tours et les étoiles se seront remélangées. Donc, c'est difficile de pouvoir utiliser juste une information spatiale pour arriver à remonter à ces accrétions. Donc, il faut utiliser d'autres traceurs. Et donc, l'un des traceurs qui était suggéré pour essayer de remonter au passé de la Voie lactée consiste à ne pas utiliser juste la localisation des étoiles. Je vous parle des étoiles parce que dans un moment, on verra que la même chose s'applique aux amas globulaires. Donc, l'idée, c'est de ne pas chercher les étoiles dans leur distribution spatiale, mais aller utiliser ce qu'on appelle l'espace des intégrales du mouvement. Donc, supposez que vous connaissez, pour un nombre suffisant d'étoiles, leur vitesse et leur position. Si vous avez une représentation fiable du potentiel galactique de la Voie lactée, vous pouvez calculer l'énergie de toutes ces étoiles. Et vous pouvez aussi calculer leur moment angulaire. Donc, vous pouvez placer ces étoiles dans un diagramme énergie-moment angulaire. Donc, alors, il y a des simulations qui ont été faites il y a une vingtaine d'années et qui ont montré que si vous laissez plusieurs satellites, galaxies satellites, être accrétées dans une galaxie comme la Voie lactée, un peu comme la vidéo que je viens de vous montrer. Mais au départ, ces satellites, ces galaxies seront redistribuées chacune dans une partie de cet espace énergie-moment angulaire. Ici, chaque couleur correspond à une galaxie. Et leur position dépend essentiellement de leur position et vitesse au départ. Mais vous laissez évoluer le système, vous laissez les galaxies être accrétées par la nôtre, vous attendez plusieurs milliards d'années et vous voyez qu'essentiellement la localisation de ces étoiles dans ce plan énergie-moment angulaire reste la même. C'est-à-dire, la proposition qui est faite ici, c'est qu'en fait il s'agit de quantités conservées et que donc si on est capable de mesurer énergie-moment angulaire pour un nombre suffisant d'étoiles dans la galaxie, on peut les reporter sur ce diagramme énergie-moment angulaire, aller voir où on a des régions de surdensité et associer chacune de ces régions à une accrétion. Alors, la même idée vaut aussi en fait, pour les amas globulaires, parce qu'on a dit que chaque galaxie accrétée amène son cortège d'amas globulaires. Donc, on peut imaginer d'aller utiliser, on a dit qu'avec Gaïa, on a position et vitesse pour 170 amas globulaires. Donc, on peut calculer l'énergie orbitale de ces amas et on peut le reporter sur un plan énergie-moment angulaire. Et donc, c'est ce qui a été fait, par exemple, récemment par Davide Massari, collaborateur. C'est que vous voyez ici, chaque point correspond à un amas globulaire de notre galaxie. Ça, sont des vraies données, ce n'est pas une simulation. Et donc, sur la base du fait que des régions différentes de cet espace devraient tracer différentes accrétions, il était possible, en fait, il a été suggéré d'associer les différents amas globulaires de notre galaxie à différents événements d'accrétion. Par exemple, ici en rouge, vous avez un événement d'accrétion qu'on appelait Gaia Sosa Genceladus et qui aurait apporté tous les amas globulaires que vous voyez ici en rouge presque à un moment angulaire zéro. En vert, vous avez les amas globulaires qui sont associés à Sagittaire. En marron, vous avez des amas globulaires qui seraient arrivés avec une galaxie qu'on a nommée Sequoia. En orange, des amas globulaires qui seraient arrivés avec une autre galaxie qu'on appelait le Stream Delmi. Et ensuite, vous avez des amas globulaires en rose et en céleste, pour lesquels on a du mal à connaître le progéniteur. Parfois, ces amas-là sont appelés les amas de Kraken. Et en bleu, en fait, vous avez, enfin, vous avez les amas globulaires qui seraient les amas globulaires qui se sont formés dans notre galaxie, parce que la galaxie a quand même formé des amas globulaires, et donc ils seraient redistribués dans cet espace énergie-moment angulaire par ici, parce que c'est ici essentiellement que vous avez les étoiles de disques et de bulbes de notre galaxie. Alors, donc, en utilisant cette procédure, en fait, ce qu'on peut faire, c'est d'arriver à reconstituer l'arborescence, ce qu'on appelle le merger tree, c'est-à-dire l'arborescence de fusion de galaxies que la Voie lactée aurait subi au cours du temps. Et donc, c'est ce qui est représenté dans cette figure. Donc, on essaie de la lire ensemble. Donc, ce que vous avez au centre, ici, à haut, c'est la Voie lactée. Et cette structure verticale, en fait, vous montre, donc la couleur montre la masse stellaire. Ici, vous avez le temps actuel 0. Ici, vous allez arrière dans le temps jusqu'à 13 milliards d'années. Ici, en fonction de milliards d'années. Ici, en fonction du redshift. Donc, cette structure verticale est simplement en train de vous dire que la Voie lactée a grandi à masse. Hein? Donc, il y a 12 milliards d'années environ, elle faisait quelques 10 puissance 7 masses solaires. Et après, elle est arrivée au cours du temps jusqu'à une masse stellaire actuelle qui est estimée environ 50 milliards de masses solaires. Au cours de ce temps, pendant que la Voie lactée grandissait à masse, vous voyez des branches. Et chaque branche, en fait, correspond à une autre galaxie qui a été accrétée par la Voie lactée au temps qui est donné ici. Donc, par exemple, on aurait accrété Kraken, qui faisait tous ces amas globulaires roses qu'on voyait dans la figure avant. Kraken serait une galaxie qui aurait été accrétée il y a environ 11 milliards d'années et qui aurait amené avec elle environ 13 amas globulaires. C'est le chiffre que vous voyez là. Ensuite, environ un milliard d'années après, on aurait accrété ce qu'on appelle l'Elmistream, qui aurait amené au moins 5 amas globulaires à la galaxie. Ensuite, vous avez Sequoia, qui aurait amené 3 amas globulaires. Et ensuite, Gaïa-Encelados, qui pour l'instant reste l'événement d'accrétion le plus significatif qu'on a trouvé dans les données, et qui aurait amené avec elle environ 20 amas globulaires. Et enfin, vous avez la galaxie de Sagittaire, dont l'accrétion est encore en cours, mais on estime qu'elle ait commencé il y a 6-7 milliards d'années environ, et qui aurait amené à la Voie lactée au moins cet amas globulaire. Donc vous voyez, il y a des dizaines d'amas globulaires selon ces estimations qui ne se seraient pas formés dans la Voie lactée, mais seraient arrivés d'ailleurs. Alors, juste un petit point d'attention ici, c'est que tous ces travaux et ces résultats se basent sur l'hypothèse que l'énergie et le moment angulaire sont conservés. C'est-à-dire que quand vous avez un système qui est accrété par la Voie lactée, comme on avait vu, les étoiles de ce système ont une énergie et un moment angulaire au départ, et après plusieurs milliards d'années, ils restent dans la même région de l'espace énergie-moment angulaire. Alors, quand on fait des simulations un peu plus détaillées dans lesquelles on en prend en compte tous les phénomènes de rétroaction, de friction dynamique que Françoise vous a mentionné avant, on voit que la situation est plus complexe. Donc ici, vous avez juste deux images prises d'une simulation qu'on a développée avec une de mes étudiantes il y a quelques années, qui ont été reprises plus récemment. Donc ce que vous voyez, c'est l'interaction et la fusion d'une galaxie satellite avec une galaxie type Voie lactée. Vous voyez que le disque de la Voie lactée est très perturbé. Ici, vous voyez une vue de face, ici une vue de tranche, et après vous avez les points rouges et bleus correspondent à des amas globulaires simulés qui sont soit dans la Voie lactée au départ, soit à rouge sont les amas globulaires qui sont amenés par la galaxie naine. Donc, vous laissez passer le temps, évidemment, cette galaxie naine va complètement fusionner et les amas globulaires vont tous se mélanger. Maintenant, si on regarde dans l'espace énergie-moment angulaire, on peut faire des simulations avec, dans lesquelles on accrète une galaxie, on peut en accréter deux et on peut répéter l'exercice avec un nombre de galaxies et qui change, avec aussi la masse qui change pour ces galaxies. Si on va regarder dans les espaces énergie-moment angulaire, si vous regardez juste les points, sans regarder la carte qui est derrière, mais les points, qu'est-ce qu'ils vous montrent? En gris, vous avez les amas globulaires qui, au départ, étaient dans la galaxie, dans la Voie lactée. Et en blanc et en rouge, vous avez les amas globulaires qui sont venus avec deux satellites différents accrétée par cette voie lactée simulée au cours du temps. Et donc, ce que vous voyez, si vous regardez par exemple les points blancs, vous voyez que c'est la galaxie qui a porté ce système d'hémoglobulaire en a laissé certains à des niveaux d'énergie très élevés, alors que certains d'autres de ces amas globulaires qui provenaient de la même galaxie se retrouvent vraiment dans les régions plus centrales, plus basses en énergie. Même chose si vous regardez les points roses, qui correspond à un deuxième système d'amas globulaires amené par une deuxième galaxie, et vous voyez que vous voyez certains de ces amas globulaires à haute énergie et certains d'autres vraiment dans les régions les plus internes. Et tout ça, ce mélange de points gris, en fait, qui sont les amas globulaires qui se sont formés et étaient dans la voie lactée dès le départ. Donc, tout ça pour dire que l'interprétation de ces espaces où on a la tendance à couper de façon un peu drastique cet espace énergie-moment angulaire et associer des amas qui se trouvent proches dans ces espaces au même événement d'accrétion, c'est encore à prendre un peu avec les pincettes, et en fait c'est très difficile d'arriver à comprendre comment utiliser toutes ces informations pour arriver vraiment à décortiquer l'histoire d'accrétion de la galaxie. Donc ça, c'est un travail encore en cours. Alors, enfin, je voudrais dire quelque chose sur les amas globulaires et la matière noire, hein, parce que en fait, on a vu l'intérêt pour, par exemple, reconstituer l'histoire d'accrétion de notre galaxie, mais en fait, les amas globulaires peuvent nous aider aussi à comprendre la distribution en masse totale de notre galaxie, donc masse visible, mais aussi la masse de matière noire. Donc, une petite excursion. On sait donc ici, vous avez une courbe de rotation schématisée pour une galaxie à disque, donc la vitesse de rotation en fonction de la distance au centre de la galaxie. Et on sait que pour reproduire dans un régime de gravité newtonienne, hein, donc si on ne change pas la loi de gravité, pour arriver à reproduire les courbes de rotation qu'on observe dans les galaxies à disque, on a besoin de faire l'hypothèse qu'il y a de la matière, hein, qui n'est pas de la matière visible, de la matière noire, parce que la seule matière visible ne pourrait pas reproduire les coupes observées. Ça, c'est valide pour les galaxies à disque en général, et c'est valide aussi pour la Voie lactée. Donc ici, vous avez un travail très récent de Heller et ses collaborateurs fait avec des données Gaïa. Les points noirs correspondent à l'estimation de la coupe de rotation entre 5 et environ 20 kiloparsecs du sang galactique. Et ce que vous voyez, c'est dans cet intervalle de distance une courbe qui est essentiellement plate. Ça, c'est ce qu'on observe. Maintenant, si on met ensemble toutes les composantes visibles de la Voie lactée, c'est-à-dire le disque, le bulbe, le disque épais, le disque mince, on aurait cette courbe de rotation qui est montrée en gris. Donc clairement, il y a un surplus de masse qui n'est pas visible et qui est responsable en fait des vitesses de rotation qu'on observe pour les étoiles dans le disque. Et donc c'est pour ça en fait que même dans la Voie lactée, on a besoin d'introduire cette composante de matière noire qui seule produirait cette courbe de rotation montrée en orange. Alors, on a des indications donc, sur la distribution de la matière noire si on utilise comme traceur les étoiles ou le gaz dans le disque de la galaxie. Mais maintenant, si on est lointain du plan, si on voulait par exemple essayer de comprendre quelle est la distribution en trois dimensions de la matière noire, donc comment elle est distribuée à des distances du plan galactique qui peuvent être aussi élevées, comment faire? Et bon, donc, une façon qu'on peut utiliser, c'est justement de revenir à ces courants stellaires des amas globulaires. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les courants stellaires tracent l'orbite de l'amas globulaire. Donc, avoir une indication sur l'orbite d'un amas, donc ça veut dire essentiellement connaître la vitesse en fonction de la distance au centre de l'amas. Et donc, en fait, on peut en tirer des informations sur le champ, sur l'accélération à laquelle ces étoiles sont soumises. Donc au champ gravitationnel de la galaxie, visible et non visible. Et donc c'est avec cette idée que, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on cherche beaucoup ces courants stellaires, c'est justement aussi pour comprendre le potentiel de la Voie lactée. Et donc ici, je vous montre juste une étude d'il y a quelques années faite par Bovi et collaborateurs, où ils ont utilisé deux de ces courants, les courants qui étaient connus à l'époque avec une belle extension, qui sont Palomar 5 et GD1, que j'ai déjà mentionné. Et donc, ils ont utilisé ces deux courants pour essayer de comprendre, de contraindre quelle est la distribution de matière noire à l'intérieur de 20 kiloparsecs. 20 kiloparsecs parce que c'est essentiellement la distance à laquelle Palomar 5 et GD1 se situent. Donc, dans cette carte, en fait, vous avez le champ de force qui serait généré par le potentiel de la Voie lactée, comme déduit par les vitesses et l'orientation de GD1 et Palomar 5. Et le résultat de cette étude suggère qu'en fait, l'halo de matière noire devrait avoir une forme presque sphérique dans les 20 kiloparsecs centraux de notre galaxie. Le deuxième intérêt qu'on a à étudier ces courants stellaires, Françoise l'a déjà mentionné, c'est le fait que, surtout pour les courants plus fines, donc encore une fois celles qui sont associées aux amas globulaires, mais quand elles orbitent autour de la Voie lactée, elles orbitent aussi dans un système de sous-halos de matière noire qui devrait entourer notre galaxie. Et donc, à chaque fois que l'un de ces sous-halos rentre, passe proche de ces courants stellaires, on devrait avoir un impact et une modification de la morphologie des courants. Et donc, il a obtenu beaucoup de visibilité, par exemple ce travail de Bonac et Tal de 2019 qui a utilisé en fait une combinaison de mouvements propres venant de Gaïa et par contre la photométrie qui vient d'un survey qui s'appelle Pan-STARRS pour étudier GD1. Donc j'ai déjà mentionné une deux fois GD1. GD1 c'est un courant stellaire qui est très étendu dans le ciel et en fait c'est un courant pour lequel on ne sait pas, il est très fin, donc on pense que ça vient, que les étoiles d'un GD1 sont des étoiles qui viennent d'un amas globulaire, mais qui a dû complètement se détruire. Donc il ne reste pas de traces de l'amas globulaire progéniteur de GD1, on voit juste le courant stellaire. Et donc Bonac et Tal ont mis en évidence en fait que le courant de GD1 montre des structures assez péculières, par exemple ce qu'elle appelle une plume ici, ou est un trou dans ces régions environ ici, dans ce système de coordonnées, environ à moins 20. Donc il y a un manque d'étoiles dans cette région, et par contre il y a des étoiles qui semblent perturbées et semblent en fait laisser le profil principal du stream. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont demandé si c'était possible d'arriver à reproduire les caractéristiques observées, comme c'est montré en haut, de GD1, dans le cas où ce courant stellaire avait été perturbé par un sous-halo de matière noire. Donc, ils ont fait des simulations, des modèles, dans lesquels ils ont pris des sous-halos de matière noire de différentes masses, de différentes tailles, qui auraient interagi avec GD1 à des différentes époques. Et, in fine, ils ont trouvé une simulation qui reproduisait assez bien les données. Vous voyez, on arrive à reproduire cette plume, cette sous-densité, cette région de sous-densité ici. Et donc, en fait, leur meilleur modèle pour reproduire toutes ces structures consiste à suggérer qu'il y a environ 500 millions d'années, un sous-halo de matière noire d'environ 5 millions de masses solaires serait passé proche de GD1 à une vitesse relative de 250 km par seconde. Et cette rencontre aurait pu reproduire les caractéristiques qu'on observe aujourd'hui. Alors, l'unique chose que je veux remarquer, donc on peut reporter, ça c'est toujours pris du travail de Bonac, donc ils ont fait beaucoup de simulations, donc là je vous ai montré dans le transparent d'avant la configuration la plus probable, mais en fait il y avait un intervalle de possibles solutions qui Bonac et Tal représentent ici dans ce diagramme qui montre la masse stellaire en fonction de la taille. Donc la région grise correspond à la région des sous-halos de matière noire, selon leur simulation, qui est compatible avec les caractéristiques qu'on observe par GD1. Et après, dans le même graphique, il montre des systèmes, par contre, visibles dans la Voie lactée. Par exemple, ici, vous avez en triangle les amas globulaires, ou sinon ici, vous avez les galaxies naines du groupe local et ailleurs. Donc, tous ces systèmes se redistribuent dans des régions différentes de ce diagramme mass size, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les amas globulaires les plus massives se redistribuent en partie dans la même région où il y a les potentiels candidats de matière noire qui auraient pu être responsables de ce qu'on voit dans GD1. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas exclu que, en fait, ce qu'on voit dans GD1 puisse être simplement le résultat de la perturbation d'un amas globulaire, et donc pas nécessairement d'un sous-halo de matière noire. Et donc, actuellement, on travaille avec un étudiant exactement sur ces aspects-là. Toute peut-être dernière partie, juste encore une question sur la matière noire et les amas globulaires. Donc on a dit on peut utiliser les amas globulaires pour tracer la matière noire dans la Voie lactée, mais est-ce que les amas globulaires même contiennent de la matière noire? Et ça c'est une question dont la réponse n'est pas du tout tranchée. Ici, quand je parle de matière noire, je parle vraiment de matière noire en dehors donc des restes stellaires que Françoise mentionnait avant, comme les naines blanches, les étoiles à neutrons, donc tous les objets qui arrivent à la fin de l'évolution stellaire de galaxies de différentes masses. Alors, la question de la présence de matière noire au sein des amas est strictement en fait liée à la question de comment ces systèmes se sont formés. Dans certains scénarios, les amas globulaires se seraient formés dans des mini-halos de matière noire et donc pourraient encore aujourd'hui contenir de la matière noire. Certains d'autres scénarios, en fait, disons, les scénarios presque, je dirais, standards, prévoit que ne prévoit pas la présence de matière noire dans les amas globulaires. C'est comme on a vu avant avec Françoise. Donc, ces amas se formeraient à partir de nuages de gaz dans des conditions de pression et densité extrêmes, mais sans besoin de matière noire. Il y a eu des premiers travaux qui datent désormais d'une vingtaine d'années qui avaient suggéré dans un des amas Palomar, cette fois Palomar 13, la possible présence de matière noire. Mais récemment, c'est le résultat que je voudrais discuter juste un instant, récemment il y a eu une découverte qui est une découverte exceptionnelle pour plusieurs raisons, mais c'est une découverte qui a re-questionné, qui a fait à nouveau s'interroger sur la présence de matière noire dans les amas globulaires. Et la découverte consiste en fait, a été portée par Nicolas Martin et collaborateurs à l'Observatoire de Strasbourg, entre autres, et c'est la découverte d'un courant stellaire qu'ils ont appelé C19, et que c'est un courant stellaire formé d'étoiles très pauvres en métaux, et qui se situe ici. Donc ici, tous les points colorés sont les amas globulaires de la galaxie, et ici vous avez C19. Alors, C19 a beaucoup de peculiarités. Entre autres, il s'agit de l'un des amas, c'est le courant stellaire le plus pauvre en métaux qu'on trouve dans la Voie lactée actuellement, et qui est en fait une métallicité qui est inférieure à toutes celles des amas globulaires connues. Ici, la couleur montre la métallicité. Vous voyez que la métallicité de C19 est environ -3 par ici. Mais une des caractéristiques de C19, c'est que les étoiles dans ce courant stellaire ont une dispersion de vitesse trop élevée par rapport à celle qu'on s'attend par un courant stellaire perdu, formé d'étoiles perdues par un amas globulaire. Donc même si l'amas globulaire est complètement détruit, on devrait s'attendre à des dispersions de vitesse assez basses, alors qu'on voit des dispersions de vitesse plus élevées. Et donc, il y a eu des simulations qui ont été faites récemment par Raphaël Erragne et collaborateurs qui ont montré ce qui est reproduit dans ce plot, par exemple, là-haut. Vous voyez la vitesse des étoiles à rouge de C19 en fonction de la distance le long du stream, qu'ils ont montré que c'est possible de reproduire les caractéristiques cinématiques, donc essentiellement la dispersion de vitesse de ce courant, si l'amas globulaire progéniteur était enrobé d'un halo de matière noire. Donc, si l'amas progéniteur était arrivé avec. Si l'amas progéniteur contenait. Était entouré d'un halo de matière noire qui aurait donc exercé une action gravitationnelle et aurait fait que les dispersions de vitesse restent plus élevées. Alors, il y a encore beaucoup à faire sur la possibilité de découvrir des sous-halos de matière noire autour d'amas globulaires. Et une autre piste est donnée par ces travaux de Vitral et Boldrin. Il s'agit encore de simulations numériques où essentiellement ils mettent en évidence que si un amas globulaire interagit avec la voie lactée par effet de marée, s'il n'a pas ou s'il est entouré par contre d'un sous-halo de matière noire, on s'attend à voir des courants stellaires différentes en extension et aussi en termes de quantité de masse dans ces courants. Et donc maintenant, on essaye vraiment de chercher, d'aller chercher une par une ces courants stellaires pour voir si on arrive à les reproduire sans besoin de matière noire. Et donc ça, c'est par exemple un travail récent qui a été fait sur 63-97, toujours par le même groupe, et qui a mis en évidence que peut-être cet amas a dû être protégé par un sous-halo de matière noire qui l'aurait enrobé, disons, et qui aurait prévenu cet amas de former des queues de marée très étendues et qu'on ne voit pas dans les observations. Donc, je m'arrête ici avec les conclusions. Ben, j'espère de vous avoir montré, première chose, que les amas globulaires semblent simples, mais en fait sont un peu plus complexes de ce qu'on s'attendait. Et possiblement, d'autres découvertes arriveront avec les prochaines releases Gaia et aussi les releases de catalogues spectroscopiques complémentaires. Et qu'en fait, il y a un très fort intérêt dans l'étude des amas globulaires. On l'a dit avec Françoise, il trace vraiment la formation stellaire dans des conditions extrêmes, dans les galaxies, galaxies à flambée de formation stellaire, etc., galaxies en interaction. Mais nous permettent aussi, en fait, une autre sonde qu'on peut utiliser pour reconstituer, dans le cas de la Voie lactée, son histoire de formation et d'évolution. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.